I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Alors, rôle des médias, en quelques questions. J'aimerais, voilà, vous l'avez dit, selon vous, la neutralité de la presse, ça n'existe pas. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, si je peux répondre à cette question, oui, on confirme, on pense effectivement que... Enfin,
je pense.
On pense que la neutralité de la presse, la neutralité de point de vue, elle peut exister, mais que très peu, voire aucun média n'applique vraiment cette neutralité. Après, voilà, tout dépend de la définition
exactement
qu'on donne. Et moi, j'aurais bien envie d'aborder la définition de Wikipédia. Je me suis intéressé récemment à la définition de Wikipédia, de la neutralité de point de vue. C'est un cas très intéressant, Wikipédia, parce que voilà, c'est une encyclopédie participative en ligne où n'importe qui ou presque peut écrire quelque chose sur un sujet, quel qu'il soit. Alors, il y a des gens qui sont un peu modérateurs et qui s'occupent de vérifier un peu qu'il n'y ait pas trop n'importe quoi qui sorte, mais c'est un truc qui fonctionne de manière quand même très horizontale et très en autogestion. Et du coup, ils ont une définition qui est assez claire du principe de neutralité de point de vue qui fonctionne avec 5 principes, en fait, que je vais peut-être énumérer rapidement. Donc, le premier principe, c'est la neutralité de point de vue n'est pas un point de vue intermédiaire. C'est plutôt de pouvoir clairement identifier et présenter chaque point de vue, mais c'est pas parce que un point de vue est pile entre deux autres points de vue que ça en fait un point de vue neutre. C'est juste un autre point de vue qui se trouve entre deux points de vue peut-être plus extrêmes. Le deuxième principe, c'est la neutralité de point de vue n'est pas un point de vue particulier. Ça veut dire, c'est lié aussi au premier principe de point de vue intermédiaire. Il n'y a pas de point de vue neutre, en fait. Et la neutralité de point de vue, c'est simplement de présenter tous les points de vue en les considérant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des points de vue. Et puis le troisième principe, c'est la neutralité de point de vue n'est pas de dire que tous les points de vue se valent. Donc parce que des fois il y a certaines personnes qui se cachent. Ben typiquement, comme j'ai dit au début, moi j'ai découvert un peu le militantisme par l'écologie et il y a certains médias qui pensent que faire un débat entre un climatologue et un climato-sceptique, c'est quelque chose qui est représentatif de la neutralité de point de vue. Mais typiquement non, parce que la neutralité de point de vue, c'est pas dire ok, tous les points de vue se valent. Il faut quand même remettre chaque point de vue dans son contexte. Et si on garde l'exemple du climat, ben il y a 100 000 climatologues qui vont dire que le réchauffement climatique existe pour un climato-sceptique qui le dément. Donc si on voulait faire vraiment un débat, il faudrait avoir 100 000 climatologues contre un seul climato-sceptique. Il reste que deux principes. Le quatrième, c'est la neutralité de point de vue n'est pas le point de vue de la majorité. Ça, j'ai pas trop besoin de développer. Et voilà, le point de vue de la majorité, c'est simplement le point de vue de l'idéologie dominante, mais c'est en aucun cas neutre. Et cinquième principe, la neutralité de point de vue requiert l'attribution des points de vue. Donc, c'est un peu ce que je disais avant par rapport avec l'exemple que j'ai pris sur le climat. En fait, chaque point de vue existe dans un contexte et il est déterminé par plein de choses. Et en gros, on peut pas, on peut pas prétendre que le point de vue climato-sceptique est équivalent ou égal au point de vue des climatologues qui défendent le réchauffement climatique, parce que les climatologues qui défendent le réchauffement climatique, ils ont des centaines et des milliers d'études pour soutenir leur point de vue, tandis que en face, on a un point de vue qui existe simplement sur des soit de la malhonnêteté intellectuelle, soit une ignorance de la réalité. Enfin, voilà, en gros, ce cinquième principe, c'est juste remettre chaque point de vue dans son contexte et puis lui donner, en gros, l'importance qu'il mérite, entre guillemets, d'un point de vue notamment de la science et de sa solidité empirique.
Ouais, et si je peux juste ajouter un petit truc, on est dans une société qui est tellement quadrillée par des rapports de pouvoir, par des rapports de domination, que dès le moment où on veut adopter une position neutre, silencieuse, etc., on est forcément du côté de l'idéologie dominante, quoi. Et donc on se fait forcément les complices des gens qui sont dans un rapport de domination positif, hein, qui exercent une oppression, une coercition sur les autres. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment inverser ce rapport de domination et puis se placer avec les personnes qui sont sujettes à, des, à toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, quoi, et toute forme de violence.
D'une certaine manière, qui se tait, consent.
Voilà, c'est ça, ouais.
Ok.
Alors, merci beaucoup pour pour toutes ces explications que vous nous donnez. Vous, en général, là, je m'arrêterai à la presse, disons, francophone. En Suisse, quel regard portez-vous sur les médias qui traînent et corollaire, l'état de la presse en Suisse? Parce que, je vous donne un exemple, on pourrait dire, oui, mais en fait, en Suisse romande, c'est un bassin finalement pas si grand que ça, puis on a une grosse pluralité de la presse. Est-ce exact ou pas? Lorsque l'on voit, par exemple, le fil Twitter de 24 heures qui est juste le même que celui de la Tribune de Genève, enfin c'est les mêmes unes. Voilà, alors vous analysez ça. Quel est votre regard par rapport à ça et comment vous analysez ça? Les médias, la presse francophone en Suisse, dans quel état est-elle selon vous?
Je crois que de manière très bourrine, on pourrait tout simplement faire un recensement de tous les rédacteurs, rédactrices en chef des grands médias en Suisse romande, et on se rendrait compte, ou en tout cas de toutes les personnes influentes dans tous ces médias, et on se rendrait compte que comme par hasard, il s'agit essentiellement, ou pour ne pas dire que, d'hommes blancs, cis de plus de 50 ans, quoi. Enfin, je veux dire par là que à travers ces médias-là, on hérite d'une représentation qui est assez biaisée de la réalité. Donc, on hérite de leur réalité, qui est une réalité qui est analysée, vue par leurs yeux. Mais on a envie d'apporter vraiment un autre regard sur tout ce réel-là. Et qui est un regard qui intègre toutes les nouvelles formes de sensibilité qui ont éclose sur ces 10, 20, 30, 50, 100 dernières années. Et on a vraiment envie d'intégrer toute minorité, quelle qu'elle soit, mais minorité avec un gros guillemets, dans notre perspective-là, quoi.
Je prétends pas être un expert des médias, que ce soit dans le canton de Fribourg et encore moins dans la Suisse romande. Après, c'est vrai que on est quand même confronté plus ou moins sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, justement, que ce soit la RTS, que ce soit Le Temps, 24 heures pour le canton de Vaud, la Tribune de Genève, La Liberté pour Fribourg, etc. On est quand même confronté à ces médias. En tout cas, moi, je constate il y a peu de divergences d'opinion, vraiment, entre les médias, et qu'ils ont tous un peu la même manière de traiter les choses, et que il y a quelques exceptions, par exemple Le Courrier qui assume un peu plus on va dire une certaine position peut-être idéologique ou un certain angle pour aborder l'actualité, mais globalement il n'y a pas enfin, globalement, c'est assez consensuel, quoi, quand même, j'ai l'impression. Et puis c'est aussi ça qu'on voulait un peu bousculer, justement, en créant le Colvert, quoi. Mais voilà, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit depuis le début sur la neutralité qui n'existe pas et qui cache, en fait, plutôt simplement une perpétuation de l'idéologie dominante, etc. Enfin, voilà, quoi.
Oui. Et juste pour conclure ce point, désolé, ça va être un peu trop long.
Non, non, pas du tout.
Je crois qu'on a vraiment une presse bourgeoise, quoi. Et là, on va faire un petit détour par Marx. On est au cœur d'un conflit de classe, et ça, de le nier, ce serait vraiment de faire d'un aveuglement terrible. Et on se rend compte que tous ces médias-là offrent une perspective complètement bourgeoise de la réalité dans tous les points. Et on l'a vu depuis cette crise sanitaire où, dès le début, il y avait une forme de romantisation du confinement, etc. Enfin, il y a eu plein de points sur lesquels... Et on a complètement laissé dans l'ombre tous ces gens qui étaient reclus chez eux dans un appartement de 30 ou 40 mètres carrés à 6 ou à 7. Et donc, c'est aussi contre cette presse bourgeoise qu'on a envie d'offrir vraiment une autre, quelque chose d'autre. Quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais envie d'aborder, pour en terminer là, pour cette fois-ci en tout cas, une dernière notion, c'est la notion de responsabilité. Selon vous, est-ce que les médias portent une certaine responsabilité dans ce qui se passe autour de nous ? Est-ce que, d'une certaine manière, peut-on dire que les médias participent à une forme, justement, de par leur traitement de l'information, qui est effectivement biaisée, comme vous l'a dit, par l'immédiateté du truc, par le fait de ne pas sourcer, on voit bien qu'il y a dans les contenus, c'est quand même, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont manquantes si on cherchait à aller plus loin. Est-ce que, selon vous, les médias portent une responsabilité dans ce que l'on est socialement et dans ce que l'on devient socialement ? Et donc, à contrario, on en porterait également, nous, lorsque l'on fait de la contre-information ou des médias alternatifs, disons des médias combatifs ?
Bonne question.
On se construit aussi personnellement, individuellement, en lisant les médias, quoi. Et typiquement, là, on a eu l'affaire avec La Liberté la semaine dernière, ou il y a deux semaines, où ils publient le courrier d'un lecteur, d'une personne probablement assez âgée, qui, à travers ses lunettes embrumées, se réjouit de voir les jeunes filles fleurir comme des fleurs. Enfin, vraiment, enfin, je pense que vous avez entendu l'histoire.
Oui.
Ben, tous ces médias-là, ils offrent une représentation de notre monde, ils offrent une représentation du réel, et nous, on a envie d'offrir une autre représentation du réel, qui soit pas à travers une perspective complètement patriarcale, sexiste, bourgeoise, etc. Quoi.
Et sans publicité aussi, quoi. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose, on n'en parle même pas entre nous tellement c'est clair dès le début. Que jamais il y aura une once de publicité où que ce soit. On n'acceptera jamais d'argent de qui que ce soit pour qui commence à faire leur petit business où que ce soit sur notre site. C'est vraiment quelque chose qui est hyper présent aujourd'hui dans les journaux, typiquement les torchons 20 minutes, etc., où une page sur deux, c'est de la publicité. Et c'est là-dedans que je vois encore plus comment un journal peut forger un caractère aujourd'hui. C'est la façon dont laquelle il est utilisé pour faire consommer et puis pour créer un consommateur aveugle. C'est la publicité. Donc nous, on n'a même pas abordé une fois ce sujet parce que ça vaut pas la peine, mais aujourd'hui je trouve que c'est un des grands problèmes dans la presse mainstream, c'est la publicité, quoi.
Ouais, effectivement, dans le fait également qu'elle participe de la représentation qu'on se forge du monde, je parle notamment pour les plus jeunes, également de cette publicité, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, prégnante partout dans l'espace public, et quoi qu'il en soit, les plus jeunes déambulent au travers de ces images-là, et quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, ce message entre, quoi. Et participent de leur représentation du monde, clairement, quoi.
Ouais.
Donc ça veut dire que, selon vous, on peut le dire, les médias portent une responsabilité certaine dans ce qui nous arrive, et notamment dans les pires moments de ce qui nous arrive, en tout cas.
Moi, je suis d'accord. Moi, en tout cas, personnellement, je suis d'accord, oui. Et je pense, justement, qu'il y a... Je dirais non seulement ils ont une responsabilité, mais je dirais en plus ils sont un petit peu lâches parce que justement ils se cachent derrière ce truc de oui mais on est neutre, on est objectif, alors qu'en fait pour eux être neutre et objectif c'est propager l'idéologie dominante. Et ce faisant, ils mettent des bâtons dans les roues à tous les contre-discours et à toutes les tentative un peu de révolutionner le monde dans lequel on vit et la société.
Ouais. Alors,
moi, je vais nuancer un peu le propos. Il y a quand même des sujets sur lesquels on n'est pas complètement d'accord. Moi, je crois qu'on est vraiment face à un problème systémique où les médias, dans leur ensemble, ils sont encastrés dans un système qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, quoi. C'est-à-dire que quand on dit les médias, déjà, de qui on parle, quoi? Est-ce que c'est le rédacteur en chef? Est-ce que c'est le journaliste? Évidemment, je crois que là, on sera d'accord pour dire que non, tous les journalistes ne sont pas à balancer dans les poubelles.
Non.
Ça, c'est clair, on sera d'accord. Je crois qu'il y a vraiment un système médiatique à repenser dans son ensemble, dans sa globalité, parce que aujourd'hui, les contraintes, les cadres financiers forcent ces médias-là, justement, à redoubler de publicité, forcent les journalistes à élargir toujours plus leur champ de compétences, ce qui fait qu'ils sont de moins en moins connaisseurs, connaisseuses.
À faire de l'information sensationnaliste. Pour avoir des vues, pour générer justement des revenus publicitaires. C'est clair que la mainmise du capitalisme sur les médias et sur la presse...
On n'a pas parlé de capitalisme. C'est quand même la première fois qu'on sort le mot capitalisme.
C'est vrai.
Après une heure de temps... Capitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste.
Tu rattrapes le coup.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un contexte qui fait que les médias ont aussi des contraintes et des impératifs de rentabilité. Mais ça, de mon point de vue, ça nuit énormément à ce qu'on soit bien informé et à ce que le métier de journaliste puisse se faire d'une manière saine et constructive.
Oui. Donc on peut vraiment affirmer sans aucun problème que nous serons aux côtés des journalistes critiques et des journalistes en lutte. Parce qu'il faut également le dire, je veux dire, si c'est pas chaque jour, c'est tous les deux ou trois jours, un journaliste tombe pour un travail qu'il a fait, sans parler de certains lanceurs d'alerte qui sont incarcérés dans des situations inextricables. J'aurais envie de vous poser une dernière question, qui serait la suivante, concernant les médias que l'on appelle « mainstream ». Faut-il, selon vous, apprendre à les lire, c'est-à-dire également à les déconstruire, ou selon vous, il n'y a rien à faire, faut-il s'en détourner ?
On est de toute façon pris dans des dispositifs de pensée, dans du vocabulaire qui ne nous appartient pas, en fait, même nous, où que tu sois.
Oui.
Et donc, de toute façon, il y a toujours un travail critique, je pense, à accomplir face à n'importe quel discours auquel tu fais face.
Mm-hmm.
Après, il y a les discours que... Je pense que c'est ça, en fait. C'est être plus ou moins conscient des limites et puis accepter d'intégrer un type de discours, un type de valeur, un type d'idéologie. Puis du coup, tu te moules là-dedans. Et le problème par rapport au discours médiatique, c'est qu'il est surpuissant, il est lobotomisant, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de... On te donne pas forcément les armes pour le déconstruire, parce qu'il se présente comme c'est ça le monde, c'est ça le réel.
Ouais.
Du moment que tu commences à parler un peu, à fréquenter des mouvements militants, le doute, il est en fait permanent, parce que forcément, t'es aussi en contact avec le discours mainstream ou avec ta famille ou enfin, tu vois. Donc forcément que tu compares, mais en fait, quand t'es simplement en face de ce mastodonte de discours dominant, eh ben t'as pas beaucoup d'armes. Donc je pense que oui, il faut. C'est chacun qui fait son propre travail et c'est hyper difficile. Il y a certaines personnes qui peuvent pas, mais l'idéal c'est d'avoir ton propre langage, c'est de faire tes propres raisonnements. Et puis je pense qu'à un certain niveau, il faut arrêter de lire effectivement la presse mainstream, parce que quand t'as atteint une certaine conception de la réalité, ben en fait t'apprends quasiment plus rien dans ces trucs, quoi. Je sais pas.
Ouais.
Moi.
Alors voilà, c'était l'idée qu'il y avait derrière cette question, c'était ça, c'était comme tu l'as dit, des dispositifs actuels, dispositifs médiatiques versus l'automédia. On a vu certains mouvements politiques, d'une certaine manière, fabriquent leurs images. Désormais, je pense à Extinction Rebellion. D'autres se disent non, mais nous, on peut par exemple se rendre à une émission si on est invité, et puis se faire interviewer. Typiquement, au Colvert du Peuple, si tout d'un coup vous aviez la presse écrite, alors je sais pas, le 20 minutes, ou la RTS qui vous dit « Ah, mais venez dire quelques mots de ce que vous faites, de ce que vous êtes ». Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Est-ce que vous iriez en disant « Changeons les choses de l'intérieur » ou est-ce que vous diriez « Non, on vient pas, on sait le dispositif que c'est, on sait la faculté après de couper, de caverder, etc. » Donc, quoi qu'il en soit, on n'entre pas en matière.
Moi, je crois qu'on irait et puis on répondrait coin-coin.
Voilà, bah, ok. Alors, non, mais c'est pas mal.
Non, mais dans le sens où le simple fait d'aller dans ces structures qui nous dominent, qui nous déterminent, qui sont plus fortes que nous, on va forcément les renforcer. Je crois pas qu'on a l'arrogance, la prétention de se dire qu'on va pouvoir y aller là-bas en arrivant à déconstruire nos messages. En plus, comme tu l'as bien dit, ils ont des moyens de couper, de reconstruire les discours, etc. Donc ouais, je crois qu'on irait, puis on dirait coin-coin. En tout cas, c'est mon... Enfin, on dirait coin-coin.
Mais ils arriveraient encore à découper le coin-coin, mettre le premier coin derrière le deuxième coin, et ça ferait coin-coin.
Ça casserait tout, quoi. Ça changerait
tout le sens du truc.
www.lecolvertdupop.ch. Êtes-vous également présent sur les réseaux sociaux?
Sur Facebook, oui. On publie quand il y a un nouvel article pour maintenir un peu les gens au courant, et un peu sur Twitter aussi, et la newsletter aussi qui est sporadique, mais et puis Telegram, ouais,
ah oui,
le chat Telegram qui diffuse à chaque fois la sortie d'un nouvel article et d'un nouvel événement ajouté au calendrier aussi, puisqu'on aimerait vraiment ajouter un peu, enfin augmenter un peu l'ampleur de ce calendrier dans les prochains temps, en espérant que ça se réchauffe un peu, quoi.
Ouais. En tout cas, l'appel est lancé aux collectifs en lutte, aux individus en lutte, de vous rejoindre, de collaborer, de vous envoyer des choses, de vous solliciter, de prendre contact via le site internet ou les réseaux sociaux.
Trop bien.
Bon cœur.
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, alors, je vous souhaite plein de courage pour la suite des opérations.
Merci.
Merci à toi aussi.
Merci Libre Radio aux Zapatistas.
Bonne soirée.
Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.